Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine-Nar-Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Les pensées réunissent les notes laissées par Blaise Pascal pour une vaste défense du christianisme, projet interrompu par sa mort en 1662. Publiée après sa mort, elle ne forme ni un traité continu, ni un système philosophique achevé. Le lecteur rencontre des fragments très brefs, des développements argumentatifs, des esquisses de plans et des méditations sur la condition humaine. Cette forme inachevée compte autant que les thèses elles-mêmes, elle expose une pensée en mouvement, attentive aux contradictions de la raison, du désir et de la foi. Mathématicien et physicien de premier plan, Pascal aborde pourtant ici les limites de la démonstration lorsqu'il est question de Dieu, du bonheur et du salut. Son propos ne consiste pas seulement à fournir des preuves religieuses. Il cherche à montrer que les êtres humains évitent les questions décisives par le divertissement, tout en demeurant marqués par une grandeur intellectuelle et une misère existentielle. Les pensées constituent ainsi à la fois une œuvre de philosophie morale, de psychologie et de polémique chrétienne. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la grandeur et la misère de la condition humaine, le centre de gravité des pensées et le paradoxe humain. Pascal refuse aussi bien les visions qui glorifient sans réserve la nature humaine que celles qui la réduisent à la bassesse. La personne humaine est fragile, mortelle et dépendante de circonstances matérielles infimes, mais elle possède la pensée, la conscience de sa propre finitude et la capacité de juger. Cette double réalité explique, selon lui, pourquoi ni la flatterie ni le mépris ne suffisent à décrire notre condition. La grandeur ne supprime pas la misère, elle la rend perceptible. Un animal ne souffre pas de ne pas comprendre sa place dans le monde de la même manière qu'un être conscient de son ignorance et de sa mort. Cette analyse soutient le dessein apologétique de Pascal. Il entend faire reconnaître au lecteur un malaise que les satisfactions ordinaires ne dissipent pas durablement. La disproportion entre nos aspirations au bonheur, à la vérité et à la permanence, d'une part, et notre vulnérabilité concrète, d'autre part, devient un fait à expliquer. Pour Pascal, le christianisme possède une force particulière, car il affirme simultanément la dignité de la créature humaine et sa corruption. Même en dehors de cette conclusion théologique, le livre conserve une portée psychologique, il examine la vanité, le besoin de reconnaissance, la dépendance aux habitudes et la difficulté à vivre lucidement avec la finitude. Deuxièmement, le divertissement comme fuite devant le vide et la mort, Pascal donne au divertissement un sens beaucoup plus large que celui du loisir. Il désigne toute activité qui nous détourne de nous-mêmes affaires, jeux, compétitions, chasses, conversations, recherche des honneurs ou agitation sociale. Ces occupations peuvent être légitimes en elles-mêmes, mais Pascal observe que leur attrait tient souvent moins à leur résultat qu'au mouvement qu'elles entretiennent. Une fois le but atteint, le désir se déplace et réclame un nouveau objet. Ce mécanisme révèle que le repos, loin de garantir spontanément la paix, peut confronter chacun à la solitude, à l'ennui et à la conscience de la mort. Cette idée ne se réduit pas à une condamnation moralisatrice du plaisir. Pascal décrit une structure de comportement, nous transformons fréquemment les moyens en fins afin d'éviter les interrogations qui menacent notre image de nous-mêmes. Son analyse anticipe certaines interrogations modernes sur la dispersion de l'attention et la recherche incessante de stimulation, sans pouvoir être ramené à ses seules questions contemporaines. Le diagnostic est plus radical. Si la distraction sert à masquer une insatisfaction fondamentale, aucun accroissement de possession ou d'occupation ne peut la résoudre. Le lecteur est donc invité à distinguer les joies réelles de la fuite organisée, puis à se demander ce que son besoin permanent de diversion cherche à ne pas voir. Troisièmement, les limites de la raison et la place du cœur, Pascal ne mène pas une guerre contre la raison. Son parcours scientifique et son usage rigoureux de l'argumentation interdisent cette simplification. Il critique plutôt la prétention de la raison à épuiser tous les domaines de la vérité. En mathématiques, certains principes premiers ne sont pas déduits par démonstration mais saisis immédiatement. Dans la vie morale et religieuse, les convictions reposent aussi sur des dispositions, des habitudes, des expériences et une forme de discernement que Pascal associe au cœur. Ce terme ne désigne pas un sentiment vague opposé à l'intelligence, mais une faculté de connaissance adaptée à ce que le raisonnement abstrait ne peut entièrement fonder. Cette distinction permet de comprendre sa critique du scepticisme comme du rationalisme absolu. Le sceptique peut souligner les erreurs de la raison, mais ne peut vivre sans croyance pratique. Le rationaliste peut exiger des certitudes démonstratives, mais risque de méconnaître les conditions concrètes dans lesquelles les humains jugent et choisissent. Pascal insiste ainsi sur le rôle de la coutume, de l'éducation et de la volonté dans la formation des croyances. La foi chrétienne ne devient pas irrationnelle pour autant, mais elle ne se laisse pas produire mécaniquement par une preuve. Le livre demande donc une humilité intellectuelle exigeante, reconnaître la valeur de la raison, ses usages propres et les frontières au-delà desquelles elle ne décide plus seule. Quatrièmement, le pari comme décision sous incertitude plutôt que preuve de Dieu. Le pari de Pascal est souvent isolé du reste des pensées et présenté à tort comme une preuve de l'existence de Dieu. Il s'agit plus précisément d'un argument destiné à une personne qui ne peut trancher la question par démonstration, mais doit néanmoins vivre et choisir. Pascal soutient que l'absence de décision est déjà une manière de parier, puisque toute existence engage une orientation pratique. Il compare alors les conséquences possibles de la croyance et de l'incroyance, en mettant l'accent sur la disproportion entre un coût temporel limité et l'enjeu infini du salut tel que le christianisme le conçoit. La force du passage réside dans son déplacement de la question. Au lieu de demander seulement si une proposition peut être prouvée, Pascal demande ce que l'indifférence révèle et comment une personne agit sous incertitude. Ses limites sont également importantes. Un calcul d'avantage ne crée pas à lui seul une conviction sincère. Et l'objection des religions concurrentes montre que la matrice du gain et de la perte ne résout pas toutes les difficultés. Pascal en était largement conscient, le pari ouvre une démarche. Il ne clôt pas l'enquête. Il conseille une pratique et une fréquentation capables de transformer les dispositions du lecteur. Lu dans son contexte, cet argument appartient donc à une stratégie plus vaste contre l'indifférence religieuse, non à une démonstration simpliste. En dernier lieu, une apologie chrétienne fondée sur le mystère, la grâce et l'histoire biblique, les pensées visent à rendre le christianisme intelligible comme réponse au paradoxe humain. Pascal ne cherche pas principalement à établir un Dieu abstrait par les voies de la métaphysique naturelle. Le Dieu auquel il renvoie est celui de la tradition biblique, connue à travers Jésus-Christ, les Écritures, la prophétie et la grâce. Cette orientation explique la place accordée aux figures bibliques, aux miracles, à la continuité historique de la révélation et aux problèmes du peuple juif. Pour Pascal, ces éléments ne sont pas des ornements culturels, ils participent à une interprétation historique de la condition humaine et du salut. Le thème de la grâce donne à cette apologie sa tension particulière. L'être humain peut chercher, réfléchir et reconnaître sa misère, mais il ne se délivre pas par ses seules forces. Cette thèse protège Pascal contre une religion conçue comme une simple morale ou comme le produit d'un calcul rationnel. Elle rend également compte de la dissimulation de Dieu, il y aurait assez de lumière pour celui qui cherche réellement, et assez d'obscurité pour que la foi ne soit pas une contrainte intellectuelle. Cette position peut déconcerter les lecteurs qui attendent une preuve universellement obligatoire. Elle montre cependant que Pascal analyse la croyance comme un engagement de la personne entière, incluant l'intelligence, le désir, les habitudes et la transformation morale. En conclusion, les pensées conviennent aux lecteurs de philosophie, de théologie, de littérature française et de psychologie morale, mais aussi à ceux qui veulent examiner les rapports entre certitude, désir et croyance. Elles demandent une lecture lente. Leur ordre varie selon les éditions, les fragments se répondent imparfaitement et certaines notes demeurent obscures parce que Pascal n'a pas achevé leur développement. Cette difficulté est cependant compensée par une densité rare, une remarque sur l'ennui, la coutume. La vanité ou la mort peut nourrir une réflexion beaucoup plus longue que sa taille ne le laisse attendre. Le bénéfice intellectuel principal est de découvrir une pensée qui refuse les fausses alternatives. Pascal ne choisit ni le mépris de la raison, ni son absolutisation, ni une vision triomphante de la personne humaine, ni un pur pessimisme. Il contraint le lecteur à tenir ensemble fragilité et dignité, argument et engagement, lucidité et espérance. Pour les croyants, le livre reste une apologie chrétienne intense, dont les arguments doivent être lus avec leur contexte doctrinal. Pour les non-croyants, il offre une analyse durable de la distraction, de la peur et du besoin de sens, même lorsque ses conclusions sont contestées. Comparé aux traités philosophiques systématiques, ce livre se distingue par sa forme fragmentaire et par la rencontre inhabituelle entre précision mathématique, violence, polémique et sens de la formule. Il ne fournit pas un parcours linéaire ni des réponses apaisantes. Il expose plutôt les tensions que toute pensée du bonheur, de la mort et de la foi doit affronter, ce qui explique sa persistance dans le débat intellectuel. Si vous souhaitez soutenir Blaise Pascal, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.